Lizzie présente La course au mouton sauvage d'Haruki Murakami. Lue par Jérémy Bardot. Chapitre 1. 25 novembre 1970. Le pique-nique du mercredi après-midi. Un ami qui avait appris sa mort par hasard en lisant le journal m'annonça la nouvelle au téléphone. D'une voix lente, il me lut dans l'appareil l'unique paragraphe de l'article paru dans l'édition du matin. C'était d'une platitude. On eût dit un exercice de quelques journalistes débutants, frais et moulus de l'université. Tel jour, de tel mois, dans tel quartier, le camionneur un tel avait écrasé la personne une telle. Une enquête était en cours au sujet d'un tel, soupçonné d'homicide involontaire, résultant d'un manque de prudence dans le cadre de sa profession. Cela sonnait un peu comme un court poème porté au frontispice d'une revue. L'enterrement, où peut-il bien avoir lieu ? Demandai-je. Ça, je n'en sais rien, fit-il. D'abord, avait-elle seulement une maison ? Bien sûr, elle avait une maison. Je téléphonai le jour même à la police qui me communiqua l'adresse et le numéro de la maison des parents. Et j'appelai ensuite ceux-ci pour connaître la date de l'enterrement. Comme disait je ne sais qui, on parvient toujours à savoir si on s'en donne la peine. Sa maison était située dans les quartiers populaires de la ville. Je dépliai la carte par arrondissement de Tokyo et inscrivis une marque au stylo à billes rouges autour du numéro de sa maison. C'était un quartier de faubourg comme il en est peu. Les lignes du métro, du chemin de fer national et des autobus s'y chevauchaient, s'y enchevêtraient comme les fils d'une toile d'araignée dégingandée. Plusieurs ruisseaux boueux coulaient au milieu d'un réseau compliqué de rues, se cramponnant à la surface du sol comme des rides sur un melon. Le jour de l'enterrement, je pris le tramway à Waseda. J'en descendis non loin du terminus et ouvris mon plan qui ne me fut guère plus utile qu'un globe terrestre. Résultat, pour arriver jusque chez elle, il me fallut acheter plusieurs paquets de cigarettes et demander mon chemin à maintes reprises. Sa maison était une vieille construction en bois ceinte d'une palissade de planches brunâtres. Le porche franchi, je trouvai sur ma gauche un étroit jardin qui attendait sans doute encore de servir à quelque chose. Dans un coin gisait, jeté au rancard, un vieux brasero de céramique au fond duquel stagnait bien 15 cm d'eau de pluie. La terre du jardin était noire, gorgée d'humidité. Elle s'était enfuie à l'âge de 16 ans, ce qui expliquait ses obsèques tranquilles, célébrées dans la plus stricte intimité. Le cortège était surtout composé de parents âgés, mais c'était un homme de 30 ans à peine, son frère sans doute, ou son beau-frère, qui avait pris la direction des funérailles. Son père, un petit homme d'une bonne cinquantaine d'années, portant un brassard sur sa veste noire, se tenait debout à côté du portillon, dans une immobilité quasi parfaite. Sa silhouette faisait penser à l'asphalte détrempé d'une route après le retrait des eaux d'une inondation. Quand je m'inclinai en silence devant lui au moment de m'en aller, il s'inclina de même, sans prononcer une parole. C'est à l'automne 1969 que je la rencontrai pour la première fois. J'avais 20 ans, elle 17. Tout près de l'université, il y avait un petit bistrot où j'avais l'habitude de retrouver mes amis. C'était un endroit très ordinaire, mais on pouvait y écouter du hard rock tout en buvant l'indescriptible café de la maison. Elle était toujours assise à la même place, plongé dans un livre, la tête entre les mains. Ses lunettes ressemblaient à un appareil dentaire, et elle avait les mains osseuses, mais quelque chose en elle lui donnait un abord facile. Son café était toujours froid, et son cendrier invariablement rempli de mégots de cigarettes. Seul le titre du bouquin changeait. Un jour, c'était Mikey Spillane. Un autre, Kenzaburo Oe. Un autre encore, un recueil de poèmes de Ginsberg. Autrement dit, tout faisait son affaire, pourvu que ce fût un bouquin. Les étudiants qui défilaient dans le café lui prêtaient ses livres qu'elle commençait par n'importe quel bout, comme elle aurait grignoté un épi de maïs. C'était là le genre de livre que tout le monde aimait se passer à l'époque. Aussi n'en manquait-elle jamais. C'était aussi l'époque des Doors, des Stones, des Birds, des Deep Purple, des Moody Blues. L'air avait je ne sais quoi de mordant, et tout, ou presque, semblait prêt à s'effondrer comme un château de cartes au premier coup de pied un peu senti. On buvait du whisky bon marché, on faisait l'amour sans conviction, on se perdait en propos inutiles, on prêtait ou empruntait des livres, et ainsi passaient les jours. Sur ces années 60 mal emmanchées, le rideau était à la veille de tomber en grinçant. Son nom, je l'ai oublié. Je pourrais le retrouver en ressortant la notice nécrologique que j'avais découpée, mais à quoi bon savoir son nom maintenant? J'ai oublié son nom. Il n'y a rien à savoir de plus. Lorsque je revois des amis de cette époque, il nous arrive incidemment de parler d'elle. Eux aussi ont oublié son nom. Allez, tu te rappelles pas? Cette fille qui couchait avec tout le monde. Comment qu'elle s'appelait encore? Ça m'échappe complètement, là. Même que j'ai couché avec elle, moi aussi. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire aujourd'hui? Ça me ferait tout drôle de tomber sur elle par hasard dans la rue. Il était une fois, quelque part, une fille qui couchait avec tout le monde. C'était cela son nom. Évidemment, s'il avait fallu être plus rigoureux dans la définition, on n'aurait pu vraiment dire qu'elle couchait avec tout le monde. Elle devait bien avoir quelques critères à elle. Cependant, à considérer le problème sous l'angle de la réalité, elle couchait avec la plupart des hommes. Une seule fois, et par pure curiosité, je l'ai interrogée sur ses critères. « Bien, fit-elle avant de réfléchir une trentaine de secondes. « Quand même, je ne couche pas avec n'importe qui. Ça m'arrive de ne pas avoir envie. Mais au fond, peut-être que j'ai envie de connaître toutes sortes de gens, ou bien de savoir ce que le monde veut dire pour moi. Enfin, quelque chose comme ça. En couchant avec les hommes ? C'était à mon tour de réfléchir. « Et tu sais un peu mieux maintenant ?»«
Un peu, oui, » dit-elle.
Entre l'hiver 69 et l'été 70, nous ne nous sommes pratiquement pas revus. À l'université, les occupations de locaux succédaient au lock-out, pendant que moi, je me débattais avec de petits problèmes bien personnels. Quand je retournais au bistrot, à l'automne 70, je ne reconnus plus aucune tête. Le seul visage familier, c'était le sien. Le hard rock retentissait encore, certes, mais cet air mordant d'antan s'était totalement volatilisé. Seule elle et l'infâme café ressemblaient encore à l'année précédente. Je me suis mis en face d'elle et lui ai parlé des types d'autrefois. La plupart d'entre eux avaient quitté la fac. L'un s'était suicidé, un autre avait disparu sans laisser de traces. Des histoires de ce genre.